réplique « Qu'est-ce qu'être européen ?» avec Rémi Brague et Jean-Claude Milner. Ma crainte a longtemps été que l'Europe continue à faire de mauvais choix. Ma crainte nouvelle est que l'Europe ne continue pas, écrit Jean-Claude Milner dans son dernier livre « Conversations sur l'Europe ». Rémi Brague fait partie, avec notamment Philippe Benetton, Chantal Delsol, Roger Scruton et Robert Spemann, des universitaires et des intellectuels qui se sont réunis en juin 2017 pour partager leur inquiétude grandissante à propos de l'avenir de l'Europe. De cette rencontre est né un manifeste intitulé « La Déclaration de Paris ». Il y a donc, semble-t-il, péril en la demeure. Quel est ce péril? De quoi l'Europe est-elle aujourd'hui menacée? Jean-Claude Milner.
À mon avis, le premier danger vient de ce que une grande mutation qui s'est produite dans l'histoire de la construction européenne n'a pas été véritablement prise en compte ou traitée. Cette grande mutation, elle est très facile à situer, c'est la fin de l'URSS qui était perçu, l'URSS qui était perçu comme une sorte de donnée quasiment éternelle. Et c'est à l'intérieur de l'intervalle entre les deux blocs que le traité de Rome s'était construit. Or, l'URSS disparaît, avec deux conséquences, l'une très claire, la réunification de l'Allemagne, ce qui change totalement, en l'espace de 10 ans, la situation de l'Allemagne au sein de l'Europe, et notamment dans son rapport à la France, mais pas seulement. Et le deuxième point, en vérité aussi important, c'est la question de l'ancienne Europe de l'Est, qui va presque mécaniquement entrer, les différents pays de l'ancienne Europe de l'Est vont presque mécaniquement avoir vocation à entrer dans l'Union européenne. Du coup, l'Union européenne va être en charge d'un problème qu'elle n'avait absolument pas prévu, qui est comment sortons d'un régime du type communiste soviétique? Et comment rétablit-on la propriété privée? Comment rétablit-on une économie de type capitaliste, non sauvage, etc. Toute une série de questions. Et comment traite-t-on cette revendication nationale qui était sous-jacente et très forte dans les pays d'Europe de l'Est, qui avait vécu pendant des siècles dans un espace dominé par la forme impériale, que ce soit l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, la domination nazie, la forme impériale soviétique. Comment allait-on concilier ce désir d'indépendance nationale avec la doctrine européenne qui avait pris le dessus à partir de la fin du gaullisme en France, à savoir que le supranational européen ne pouvait s'obtenir que par l'effacement du national. Il me semble que toutes ces questions-là sont apparues matériellement et sur aucune d'entre elles, il n'y a eu de véritable réponse doctrinale, ni de véritable traitement empirique, matériel. Donc tout cela est extraordinairement confus. Entre l'Europe de l'Ouest, historiquement fondatrice de l'Union européenne, et l'Europe de l'Est, qui demande à y adhérer et qui est acceptée avec Enthousiasme d'abord, puis prudence ensuite, puis des espèces de ruses. On fait des pas de côté. L'Allemagne pense à un moment donné avoir vocation à dominer à être la tutrice de l'Europe de l'Est, et puis se rend compte que les choses ne vont pas se passer comme ça. Et on est là dans une situation extraordinairement confuse. Tout problème nouveau qui se présente est en quelque sorte d'emblée plongé dans cette confusion. Par un grand exemple, le problème nouveau que représente le type nouveau d'immigration, c'est-à-dire l'immigration due non pas à des crises économiques, mais à des situations de guerre. L'Europe, n'ayant pas réglé ce problème de sa propre disparate interne entre Europe de l'Est et Europe de l'Est, ou Europe centrale si l'on préfère, est totalement démunie devant ce nouveau problème qu'elle est bien obligée de recevoir, puisqu'elle ne peut rien sur le fait que le Moyen-Orient et le Proche-Orient soient en état de guerre, et cela pour longtemps.
Rémi Brague.
La question de savoir ce qu'est être européen doit évidemment recevoir des réponses nuancées suivant l'idée que l'on se fait de l'Europe. Vous avez eu la gentillesse de citer cette déclaration de Paris et de faire remarquer qu'elle venait d'intellectuels, pas d'intellectuels extrêmement connus, mais enfin, disons des gens à peu près respectés, enfin, je ne parle pas de moi là. Et bien entendu, nous avons une sorte de déformation professionnelle, si je puis dire, qui fait que ce que nous appelons Europe, ça n'est pas tellement l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement. Ce n'est pas non plus uniquement ce concert plus ou moins cacophonique de nations dans lesquelles il s'agirait d'harmoniser l'ex-Est, bien mal nommé d'ailleurs, puisque Prague est plus à l'ouest que Vienne. Bon, mais et d'une part, et d'autre part, la vieille Europe, avec des guillemets, donc l'Europe née à la fin de la guerre du désir d'en finir justement avec les affrontements qui avaient risqué de la détruire. Alors il y a cela, et puis il y a pour nous aussi quelque chose qui relève du domaine de ce que l'on peut appeler la culture, mot qu'il faudrait interroger, mais qui est quand même compris, je crois, dans l'ensemble. Et pour nous, les dangers, enfin ce qui menace l'Europe, c'est avant tout, à chercher dans le domaine de la culture, dans une sorte de fatigue, comme disait déjà Husserl en 1935, ou de, parlons peut-être pas de haine de soi, ça serait un petit peu trop fort, même si l'on peut en trouver des traces dans plusieurs endroits. Donc pour nous, pour les signataires de cette déclaration, le poisson pourri par la tête, nous avons la malchance de vivre sur la tête du poisson en question, donc c'est donc à nous d'essayer de trouver, proche du danger, ce qui éventuellement pourrait sauver.
Donc, pour vous, la menace tient essentiellement à ce que vous appelez d'ailleurs dans la déclaration de Paris l'abjuration de notre préférence pour notre propre culture, l'incapacité à honorer notre héritage commun, et d'ailleurs vous opposez de manière très vigoureuse et dès le début de cette déclaration de Paris, l'Europe véritable à l'Europe, à l'Union européenne, qui est une sorte d'étau étouffant pour cette Europe véritable. C'est intéressant, vous sortez de l'opposition entre nationalisme et européisme, souverainisme et européisme. Vous dites que vous êtes européen, mais vous ne vous reconnaissez pas dans l'Europe telle que qu'elle se fait, parce que cette Europe-là, en quelque sorte, oublie, veut oublier, notamment du fait de sa mauvaise conscience, qu'elle est une civilisation.
Oui, je ne peux pas parler au nom de tous les signataires du manifeste. Enfin bon, je parle en tout cas en mon nom et en espérant que je ne recevrai pas trop de coups de férule sur les doigts des autres signataires. Mais je dirais que ce que nous souhaiterions, ça serait justement que l'Europe comme culture telle que nous l'aimons, telle que nous essayons non pas de la défendre, mais espérons-le, de l'illustrer, eh bien, transparaissent davantage dans les constructions politiques de l'Union européenne, construction que nous trouvons plutôt une bonne chose, en gros, mais dont nous aimerions justement qu'elle soit davantage fidèle à cette culture. Culture qui n'est pas une identité, hein. Il ne s'agit pas de défendre, si je puis dire, son beefsteak culturel, puisque bon, j'ai moi-même essayé de montrer dans un livre qui a maintenant un quart de siècle
Europe, la voie
que,
romaine. Ouais,
que cette identité était excentrique, qu'il ne s'agissait c'est certainement pas d'opposer un « nous » à un « eux ». Mais j'ai essayé de montrer, je continue, je persiste et je signe, là d'autant plus que justement j'étais le seul à signer ce bouquin. Je persiste à penser donc que l'identité de l'Europe est excentrique, enfin qu'elle a pu devenir ce qu'elle est parce qu'elle a su emprunter, parce qu'elle a su choisir, parce qu'elle a su s'ouvrir, non pas s'ouvrir indistinctement, mais faire comme un organisme vivant qui peut choisir ce qui lui convient, qui peut le développer, qui peut emprunter et qui rend tant bien que mal.
La secondarité de l'Europe, notamment par rapport à la fois à la Grèce et à l'Ancien Testament, à Athènes et à Jérusalem. C'est cette secondarité initiale qui fait pour vous le propre de l'Europe. Il n'empêche que dans votre déclaration de Paris, il est écrit « Les paysages et les événements de l'Europe nous renvoient des significations propres qui n'appartiennent pas aux autres. Et notre maison est un lieu où les objets nous sont familiers et dans laquelle nous nous reconnaissons, quelle que soit la distance qui nous en éloigne. » C'est donc en quelque sorte une maison commune. Et c'est cette maison commune qu'il faut pouvoir préserver. Mais Jean-Claude Milner, vous avez dit que l'Europe n'avait pas su régler vraiment le problème né de la chute du mur de Berlin, de l'adhésion des anciennes démocraties populaires, et que de ce fait, elle ne pouvait pas résoudre la nouvelle question migratoire. Alors, première question que je voudrais vous poser, cette question migratoire ne se poserait-elle pas de toute façon à l'Europe et dans des termes très angoissants, quand bien même il n'y aurait pas le problème des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est? Parce que vous avez dit, c'est une immigration liée à la guerre, c'est pas tout à fait vrai. Si on lit Stephen Smith, c'est l'Afrique qui se rue aujourd'hui vers l'Europe, une Afrique dont la démographie, si vous voulez, est exponentielle, et cette ruée vers l'Europe est vouée à continuer. Il n'y a pas que des Syriens qui viennent aujourd'hui sur nos côtes, il y a des habitants de l'Afrique subsaharienne, et c'est un problème qui se pose à l'Europe occidentale de toute façon. Jean-Claude Milner.
Oui, le problème de ce qu'on appelle le problème de l'immigration, il est effectivement à plusieurs échelles, à plusieurs étages, je veux dire. Bien entendu, la question de la démographie de l'Afrique subsaharienne est une question qui se serait posée de toute manière, mais elle ne se serait pas, à mon avis, posée de toute manière dans les mêmes termes. Je pense que les termes dans lesquels cette question est posée est déterminée de manière double. D'une part, par la totale confusion qui pèse sur, alors, ce qu'on appelle l'Europe des traités, c'est-à-dire, en gros, l'Europe de Bruxelles, si vous voulez, l'Europe des traités, puisque ce sont plusieurs traités successifs qui l'ont organisé, et ces traités n'articulent aucune des difficultés que j'évoque. Et le deuxième point, c'est effectivement la question de la culture, sauf que la question de la culture a toujours été articulée dans l'Europe dans des termes qui étaient des termes de langue et de langue nationale. Et c'est là, à mon avis, que la difficulté se pose, c'est-à-dire que toute immigration, par définition, a réglé d'une manière ou d'une autre la question de son acceptation ou de son refus de la langue nationale des pays qui l'accueillent. Pendant de longues périodes, cette question-là a été très facilement résolue dans la représentation du pays d'accueil, parce que ces pays d'accueil considéraient qu'il allait de soi que la langue nationale serait accueillante. Aujourd'hui, le caractère accueillant de la langue nationale est perçu comme une mauvaise chose, aussi bien par une partie de l'opinion du pays d'accueil, qui considère que le caractère accueillant de la langue nationale est en vérité une forme d'absorption et d'impérialisme doux, et par les immigrants accueillis qui perçoivent cet accueil comme leur propre absorption et leur propre disparition. Et là, c'est quelque chose de nouveau qui se déploie. Par exemple, aux États-Unis, le fait que les immigrants soient accueillis en se mettant à parler l'anglais a longtemps été considéré comme allant de soi, et en vérité est toujours considéré comme allant de soi aux États-Unis. Là où le problème se pose en Europe, c'est que cela ne va plus de soi parce que les pays d'accueil eux-mêmes ont une relation de plus en plus compliquée à l'égard de la langue nationale. Pour dire une chose très simple, l'Europe telle qu'elle se profile à l'horizon, je veux dire, l'Europe des traités, ne va plus reconnaître comme langue commune administrative, langue de travail comme on dit, que l'anglais. Et surtout, si le Brexit a lieu. C'est-à-dire que le paradoxe sera que surtout si la Grande-Bretagne quitte l'Europe, ce sera l'anglais, mais un anglais
globish,
qui va devenir la langue commune. Parce qu'en vérité, avec l'abandon de la langue, des langues nationales, c'est toute la dimension culturelle qui non seulement est considérée comme inutile, est considéré comme nuisible.
Mais c'est donc ce qu'il faudrait éviter à tout prix, ce contre quoi il faut se battre, ce contre quoi a été, si j'ai bien compris, rédigé la déclaration de Paris, Rémi Brague.
D'une certaine façon, oui, mais je trouve que la question de la langue, et pas seulement parce que j'ai l'honneur de partager cette émission avec un linguiste de métier, mais en soi et pour soi, est de toute première importance. Et je dirais, si je puis me permettre un sourire, que depuis que nous avons perdu le latin, tout fout le camp. Bon, non, je veux dire par là, on peut rêver. Alors je rêve, bon, allez, qu'on se remette tous au latin, mais je sais bien que, bon, ça n'est qu'un rêve. L'avantage du latin, c'est qu'il n'était la langue maternelle de personne. Alors que le globish est une forme, disons le Mighty Lore is Rich, si vous préférez, est une forme quand même d'une langue nationale qui est vivante dans plusieurs pays, bon, alors, Brexit ou non, la prépondérance économique des États-Unis, économique, politique et militaire est une évidence, bon, l'anglais n'est pas, si je peux dire, une langue neutre. Alors, ce qu'il nous faudrait chercher, ça serait une sorte de nouveau latin, hein, enfin, d'équivalent intellectuel de ce que le latin permettait, à savoir bon, quelque chose qui serait à chercher de toute façon dans le domaine de la culture. Là, je reviens à mes obsessions, excusez-moi.
Hein. Oui, mais bien sûr, mais d'un autre côté, Jean-Claude Minère va plus loin, puisqu'il dit que c'est même le rapport aux langues nationales qui a changé. La langue nationale n'est plus assumée comme langue d'accueil aujourd'hui. Mais alors là, Jean-Claude Minère, je voudrais vous interroger plus avant. Le problème de l'Europe ne vient-il pas du fait qu'elle est construite sur la mauvaise conscience et que cette mauvaise conscience ne cesse de s'aggraver aujourd'hui. Vous dites vous-même, dans vos deux livres, Considération sur l'Europe, Considération sur la France, que la défaite de 1940 a rendu inarticulable le nom français, que toute référence nationale est d'emblée ridicule ou odieuse. Mais si tel est le cas, comment pouvons-nous prétendre accueillir ceux qui viennent sur notre sol? Ne sommes-nous pas voués, ne fût-ce que pour expier nos crimes, au multiculturalisme, avec tous les problèmes qu'il pose, pour que la France, les nations européennes et l'Europe en général soient vraiment accueillants? Il faudrait qu'ils aient quelque chose à donner, donc qu'ils aient conscience de leur propre trésor, qu'ils veuillent préserver leur héritage. Or, il me semble que l'Europe est fondée sur l'idée que la civilisation européenne ayant mené au crime, il vaut mieux la répudier et la remplacer par une construction européenne fondée sur des procédures et des valeurs. Quant à la culture, eh bien, elle ne peut prétendre à aucune supériorité sur les cultures venues sur notre sol. La culture englobant également la langue. N'est-ce pas aussi le grand problème de l'Europe d'aujourd'hui, Jean-Claude Milner?
Je crois que je suis très intéressé par votre emploi du « nous ». Parce qu'en vérité, je crois véritablement qu'il n'y a pas de « nous » européens, premièrement, et je crois, deuxièmement, que la mauvaise conscience dont vous parlez, elle a fondamentalement une seule patrie, c'est la France. C'est vraiment la France qui porte la figure de la mauvaise conscience.
L'Allemagne aussi, quand même.
Pas du tout. Ah, c'est fini. Je veux dire que ça a été le cas. Je pense que Angela Merkel est sans doute la dernière à porter le poids de la mauvaise conscience, ou peut-être plus qu'une mauvaise conscience, une conscience de culpabilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Puisque la mauvaise conscience, c'est une conscience d'une culpabilité qui s'accompagne d'une forme de « nous ne sommes pas vraiment coupables », quelque chose comme ça. Je suis, moi, frappé par le fait que dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Ouest, le recours au nom national se fait avec beaucoup plus de simplicité et beaucoup moins de mauvaise conscience.
En Europe de l'Est?
Non seulement en Europe de l'Est, mais aussi en Europe de l'Ouest. Je cite toujours l'exemple des Pays-Bas, où la référence hollandaise est absolument facile, sauf que elle est discrète. À l'époque où je fréquentais justement les linguistes dans les colloques, j'étais très frappé par le fait que les Néerlandais parlaient anglais dès qu'il y avait un nom néerlandais. Mais dès qu'ils étaient tout seuls entre eux, ils parlaient le néerlandais. C'est-à-dire que le nationalisme néerlandais est un nationalisme quasiment clandestin. C'est une forme de reconnaissance interne. Alors qu'en France, le nationalisme, par exemple l'usage de la langue française, se veut extraordinairement public. Et c'est là que la mauvaise conscience joue son rôle. Dans un pays comme la Hollande, il n'y a aucune mauvaise conscience à être. Il y a toutes les raisons d'être aussi. Il y a une histoire de colonisation très brutale, mais tout cela ne pèse en rien. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier à la France. Et à partir du moment où la mauvaise conscience porte sur tout ce qui relève du national, et ceci, à mon avis, c'est lié à 1940, d'une part la défaite et ce qui a suivi, c'est-à-dire la construction de l'État français sur la base de lois anti-juives, c'est-à-dire l'abandon de ce qui avait constitué le cœur, non seulement de la politique française, mais de l'union entre ce qu'on peut appeler la politique et l'intellectualité, représenté par exemple par un philosophe comme Alain, parmi d'autres. Tout cela fait que la cause de la culture et la cause de la langue sont devenus maintenant insoutenables de la part de la plupart des intellectuels.
Mais ils ont raison ou ils ont tort?
Moi, je dis ce qui est. Je ne juge pas.
Mais quand vous, d'un autre côté, quand vous dites la défaite de 40 a rendu inarticulable le nom français, vous reprenez cette espèce de condamnation à votre compte.
Non, c'est pas une condamnation. Personnellement, à titre personnel, je peux dire que j'ai littéralement cassé ma carrière de linguiste au niveau international par ma persistance à vouloir écrire en anglais. En français, je veux dire. Mon retard à accepter d'écrire en anglais. Donc, si j'ose dire, à titre personnel, j'ai longtemps résisté à cela. Mais moi, je constate les choses. Je ne vais pas juger. Je constate que l'ensemble de ceux qui parlent de l'enseignement en France s'accordent sur le fait que la dimension nationale dans l'enseignement doit être mise de côté, que l'ensemble de ceux qui parlent de la langue en France, par exemple de l'orthographe, s'accordent sur le fait que l'écriture inclusive est une excellente chose. Moralement, ils ne la pratiquent pas dans leur correspondance personnelle. Enfin, je ne le crois pas. Mais moralement, ils considèrent que c'est une excellente chose. Donc, il y a un accord que je ne le partage pas, est un détail anecdotique.
Ah, c'est pas forcément un détail anecdotique. C'est un détail anecdotique si vous pensez que la bataille est perdue. Si vous pensez qu'elle peut être gagnée, notamment autour de l'écriture inclusive, alors il faut que vous publiez de toutes les manières, enfin que vous divulguiez votre désaccord. Parce que, ou alors là, on peut dire que tout est perdu, mais effectivement, que l'Europe elle-même, si elle s'engage sur cette voie, est perdue, parce que l'alternative, et ça je vous le pose la question aussi Rémi Brague, l'alternative à l'assomption par l'Europe de sa culture et de la culture en général, c'est l'entrée dans une société multiculturelle. Et toute la déclaration de Paris, me semble-t-il, nous engage à refuser, s'il est encore temps, cette voie, Rémi Brague.
Oui, là, il y a beaucoup de choses à dire.
Allez-y.
Déjà, sur le multiculturalisme, s'agit-il véritablement de culture, au sens un petit peu noble de ce terme? Ne s'agirait-il pas plutôt d'une diversité, disons, de mœurs? Enfin, je choisis prends le premier mot qui me tombe sous le cerveau, si je puis dire. Bon, je n'emploierais là le mot culture qu'avec beaucoup de précautions. Bon. Alors, en ce qui concerne cette espèce de manque de j'ai parlé de haine de soi tout à l'heure en disant que le mot était peut-être un peu fort, disons de doute de soi, j'ai cité Husserl sur la fatigue de l'intelligence européenne. Là, je crois qu'il faut regarder en face cette histoire de culpabilité. Je nuancerai, en ce qui me concerne, ce que Jean-Claude Milner a dit sur la fin de la culpabilité en Allemagne. Enfin, il y a un passage dans votre livre, je ne l'ai pas retrouvé là immédiatement, dans lequel vous dites un peu plus et l'Allemagne va réhabiliter ce qui s'est passé jusqu'en 1943. Bon, c'est déjà bien que ça soit avant la conférence de Wannsee. Enfin bon, là je crois quand même, pour être un peu vulgaire, que vous charriez. Hein. Bon, enfin, ma propre expérience de l'Allemagne, ou en tout cas des milieux pour la plupart universitaires, faut bien dire, que je fréquente en Allemagne, où j'ai quand même enseigné 10 ans. Bon, non, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, ça n'est qu'à moitié vrai.
Je vous donne 5 ans.
Bon, enfin, on verra. Alain nous réinvitera dans 5 ans. Alors, je voudrais quand même attirer l'attention sur un paradoxe, justement, qui fait que la défaite de 1940 aurait très bien pu mener, au contraire, à une réaffirmation. Il est de fait que dans l'histoire de beaucoup de pays, c'est plutôt un traumatisme initial qui est principe d'identité. Je pense à la Serbie. Bon, la Serbie, c'est ce qui est sorti de la défaite de Kosovo-Polje, du champ des Merles. Bon, on pourrait peut-être prendre d'autres exemples. Et déjà, notre bonne vieille Troisième République est née à Alésia. hein, de la défaite de Vercingétorix. Alors comment se fait-il, ça c'est une question que je pose, que la défaite de 1940 est plutôt menée à cette espèce de doute de soi térébrant plutôt que à un malgré tout, hein, on va quand même leur montrer que pourquoi cela. Donc là, ma réponse tentative, ça serait que c'est plutôt les suites de la défaite qui ont produit cette mauvaise conscience, à savoir le régime de Vichy et tout ce qu'il a, et cette espèce de dérive vers la collaboration totale qui a été la sienne au fur et à mesure que les années passaient. Je crois que c'est là qu'il y a la source de la principale culpabilité. Mais je me permettrai une dernière remarque d'ordre théologique. Le sacrement de confession, c'est très bien, à condition qu'il y ait une absolution. Alors je dirais que nous souffrons d'une manie de la confession, hein, mais sans absolution. Il n'y a personne pour nous pardonner, si je puis dire. Il n'y a personne pour nous dire, malgré tout, vous allez pouvoir continuer et vous allez réparer ce que vous avez fait. Je crois que c'est ça. Hein. Reconnaître ses fautes, c'est très bien. Je veux dire, c'est la tâche, de tout historien qui se respecte, de mettre aussi en lumière, les coins sombres que l'on préférerait cacher, à condition qu'on ne reste pas là. Alors la question, c'est de savoir comment aller plus loin, comment aller, si je puis dire, vers l'absolution.
Oui, alors, en effet, Rémy Brague, le temps de l'absolution ne semble pas encore venu. Alors, dans le sens de Rémy Brague, je dirais quand même que c'est un penseur allemand qui a élaboré la notion de patriotisme constitutionnel, Habermas, précisément en disant que un autre type de patriotisme était interdit à l'Allemagne, rien de charnel, on sait ce que ça avait, charnel mène à charnier, disons, et donc simplement des normes, des procédures, des valeurs. Il me semble que toute l'Europe est construite aujourd'hui sur ce modèle, et j'ai le sentiment que face à la question, notamment, de l'immigration, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut aboutir qu'à, justement, l'émergence d'une société multiculturelle dont tout laisse à penser qu'elle est multiconflictuelle. Alors, je vous citerai, Jean-Claude Milner, une phrase de la Déclaration de Paris, pour vous demander si vous y adhérez, peut-être pas. Reconnaissant le caractère particulier des nations européennes et leur marque chrétienne, nous ne devons pas être mis en difficulté par les fausses affirmations des multiculturalistes. Une immigration sans assimilation est une colonisation et celle-ci doit être rejetée. Nous attendons justement de ceux qui migrent vers nos terres qu'ils s'incorporent à nos nations en adoptant nos mœurs. Voilà une affirmation très clair, est-ce que vous la reprendriez à votre compte? Et sinon, pourquoi, Jean-Claude Milner?
Pas entièrement. Je suis tout à fait d'accord sur la dernière phrase. Nous attendons. Mais c'est une attente dont je perçois qu'elle n'est pas nécessairement partagée et elle n'est pas nécessairement explicitée. Pour ma part, je n'aurais aucun problème à la partager ou à l'expliciter. C'est-à-dire, nous attendons. Nous souhaitons. Là où la divergence pourrait apparaître, ou apparaîtra dans ce que je vais dire, je n'ai aucun problème pour dire que la référence, que là où les références chrétiennes ont une place dans ce qu'on appelle les différentes cultures nationales des différents pays européens. Je serais, en revanche, très prudent à l'égard d'une affirmation qui n'ajouterait pas un « entre autres » à cette référence aux marques chrétiennes. « Entre autres ». Dans la mesure où, par exemple, je l'ai écrit et je crois toujours, je pense que la référence à la Révolution française a une place aussi importante dans ce qu'on peut appeler une culture européenne. Et bien entendu, la culture européenne qui a existé, qui a fonctionné, celle dont Husserl parle en disant qu'elle est fatiguée, nous savons très bien comment, où et quand elle s'est constituée. Nous savons qu'elle s'est constituée avec l'invention de ce qu'on pourrait appeler l'enseignement secondaire au moment de l'humanisme, tant chez les catholiques par les jésuites que chez les protestants par la création de ce qu'on appelait les gymnases. Cette culture-là, nous savons très bien qu'elle a duré efficacement jusqu'au XXe siècle, jusque dans les années 60. En France, c'est 68 qui y a mis fin. Il est vain de penser qu'on puisse la reconstruire. Pourquoi il est vain de le penser? C'est parce que, en vérité, le consensus européen public, je veux dire celui qui s'exprime, est un consensus autour d'une demande, qui est une demande de prospérité et d'enrichissement. Enrichissez-vous, c'est cela la promesse de l'Europe. Et ce sur quoi elle bute en ce moment, c'est sur le fait que cette promesse d'enrichissement ne peut plus être tenue d'un certain point de vue. C'est ce que disent les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes disent, contrairement à ce qu'on nous avait dit, nous ne nous enrichissons pas. Et perçoivent cela comme un scandale, et à certains égards, ça l'est, puisque c'était la promesse. Alors évidemment, entre la promesse du type « enrichissez-vous », le constat que la richesse ne se parle désormais qu'en une seule langue, qui est le globish, le constat que les langues nationales, si la prospérité promise se dit en globish, les langues nationales ne sont pas une promesse de prospérité, alors vous avez ce à quoi on assiste. Le multiculturalisme, ça n'est rien d'autre que l'inscription du fait que l'enrichissement doit pouvoir se passer dans n'importe quel type de mœurs existant sur un territoire. On peut être prospère en étant, en ayant une, entre guillemets, culture ou des mœurs de type africain, subsaharien ou maghrébin. C'est pas la question. C'est pas la question. Mais le problème, c'est que ce multiculturalisme-là, qui est un multiculturalisme de l'enrichissement continu et partagé, se heurte au fait que cet enrichissement est en train de s'arrêter.
Rémi Brague.
Il est difficile de réagir à tant d'idées stimulantes. Je commencerai par dire que la Révolution française, elle est derrière nous. Elle n'est pas perçue de la même façon dans la totalité des pays européens. Hein. Là, ouais. Il faut faire attention.
Le christianisme, non ?
Bien sûr, j'ai été très frappé lorsque j'ai appris comment on disait Carpaccio à Turin. Ça se dit un Robespierre. Hein, cette viande hachée, n'est-ce pas, en tranches très minces, cette viande guillotinée, si je puis dire. Donc, les pays qui ont été pillés par la Convention, puis le Directoire, puis l'Empire, ne voient peut-être pas les choses dans la même, la même optique.
Bon, enfin, pour autant, ils ne tiennent pas le Carpaccio pour un plat répugnant.
Non, tout à fait, ils en mangent. Nous nourrissons aussi de notre héritage révolutionnaire. Bon. Sur le christianisme, lorsque nous avons rédigé cette déclaration, j'aurais préféré que l'on utilise l'adjectif biblique plutôt que le fameux judéo-chrétien dans lequel ce trait d'union est plutôt un trait de désunion, enfin, historiquement parlant. Mais biblique permet justement d'introduire à l'intérieur même de la référence religieuse cette fameuse secondarité dont j'ai parlé et qui est finalement la clé d'une assimilation possible Si l'on demande à quelqu'un de s'assimiler tout simplement ce qui est de mise, aux coutumes locales, bon, quelqu'un auquel on va demander ça dit, moi j'ai moi aussi mes mœurs, mes habitudes, je vois vraiment pas pourquoi je m'identifierais à vous qui n'êtes pas plus beau, plus intelligent ou plus gentil que moi. Bon, ça c'est parfaitement légitime de réagir comme ça. Si en revanche, on dit aux gens qui s'assimilent, écoutez, il y a quelque chose vers quoi nous essayons nous aussi de tendre, quelque chose qui nous dépasse, bienvenue au club, essayez en même temps que nous d'arriver à cela. Alors qu'on appelle ça des valeurs, j'aime pas le mot, tant pis, qu'on appelle ça un idéal, pourquoi pas, j'aime pas tellement le mot non plus, comme je n'en trouve pas de meilleur, laissons passer. Mais ce problème d'assimilation, c'est justement que l'on ne peut pas dire « faites comme moi, regardez comme je suis beau, comme je suis malin ». D'abord parce que c'est pas vrai, et puis ensuite, parce que pour qui je me prends, pour qui vous prenez-vous, me dirait-on. Bien. Le problème de l'assimilation a aussi un aspect, là je descends un petit peu sur terre, si je puis dire, un aspect extraordinairement concret. Et là on retombe dans les langues. Si par exemple, dans un couple, seul le mari parle la langue du pays d'arrivée, la femme va se trouver complètement pieds et poings liés par rapport à lui, qui sera cette espèce d'interface avec les autorités, avec les... je crois que c'est là on a un problème extraordinairement concret. On quitte, si vous voulez, les déclarations de principe, même si c'est la déclaration de Paris, pour entrer un peu dans la cuisine, si vous voulez, de l'accueil de ces gens. Si j'ai encore 30 secondes, autre problème. Je me souviens d'une conversation avec une jeune amie allemande qui s'occupe beaucoup, justement, d'accueillir les gens venus de régions défavorisées. Et elle me dit... Mais il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui ont été scolarisés dans leur pays. Et alors là, ça se passe très bien. Et puis ceux qui n'ont jamais mis leur cul sur les bancs d'une école auxquels on n'arrive même pas à faire comprendre pourquoi c'est intéressant d'apprendre. Pourquoi, par exemple, il faut faire attention, il faut essayer d'écouter lorsque le professeur parle et puis essayer de prendre des notes, etc., quand on sait écrire. Là, on est vraiment dans le très concret. Et j'espère qu'on va trouver des solutions.
Oui, mais Rémi Brague, vous avez raison. Il faudrait être capable de tendre vers un idéal. En même temps, nous sommes des sociétés pluralistes. Nous n'avons pas une conception unitaire de la vie bonne. Mais surtout, il y a un moment, on doit en appeler à nos mœurs. Nous avons une certaine idée du rapport entre les sexes, par exemple. En France, notamment. Qui ne remonte pas simplement à la Révolution française, mais comme l'a montré Claude Habib, à notre tradition galante. Cette idée n'est pas forcément partagée par ceux qui arrivent. En même temps, nous ne voulons pas y renoncer. Nous ne pouvons pas leur faire entrer de force dans la tête. Et donc, à ce moment-là, l'argument, c'est « In Rome, do as the Romans do ». Ça, si vous voulez, c'est effectivement un argument par défaut. Mais il y a un moment où il faut pouvoir l'employer, de même avec les prénoms. On en parle beaucoup depuis le livre de Jérôme Fourquet, 18% de prénoms donnés l'année dernière étaient des prénoms musulmans arabes. Vous arrivez dans un pays, mes parents, ils m'ont appelé Alain Luc, alors qu'ils voulaient m'appeler Aaron et Lazare du nom de leurs parents respectifs qui étaient morts. Ils sont dit Aaron, Lazare, Finkielkraut, vraiment, ça fait trop pencher la barque. Donc, l'initial, Alain Luc, mais ça, c'est évidemment, une assimilation à des mœurs. On peut l'exiger aussi pour peu qu'on n'ait pas complètement honte de soi.
Oui. Là, je crois que c'est vraiment une observation de bon sens que vous faites, mais une observation profonde. Quand on est invité chez des gens, on essaye de s'asseoir sur le siège qu'on vous donne et pas, autrement. Ce sont des bonnes mœurs.
C'est Rémi Brague, oui. On ne peut pas. Jean-Claude Miller. On ne peut pas. Prendre cette analogie trop, la pousser trop loin. Invitation, nous savons très bien que ça n'est pas comme ça que les choses se passent. Sur ces questions-là, je crois qu'il faut, il faudrait être, au fond, extraordinairement simple. Et ne parlons pas de culture dans la mesure où le mot est équivoque. Parlons d'instruction. Autrement dit, le grand problème auquel nous sommes confrontés et qui rend si difficile, et spécialement en France, la situation créée par les diverses immigrations, et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'elles sont diverses, que le rapport justement à la scolarisation n'est pas forcément le même, il est évident que à partir du moment où il existe quelque chose qui s'appelle l'école publique, et à partir du moment où l'école publique ne résonne pas d'emblée en termes de culture, ce qui va tout de suite l'emmener du côté du multiculturalisme et du respect du ou non dû aux différences culturelles, mais si elle résonne en termes de, premièrement, l'ignorance est toujours nuisible. Et deuxièmement, parmi les choses qu'il faut savoir, il y a un certain nombre de points incontournables. Et parmi les choses qu'il faut savoir, même si on considère que, par exemple, le nom national est porteur de danger, ça, même si on pense ça, et peut-être surtout si on pense cela, il faut donner les éléments de savoir nécessaires pour comprendre ce que c'est qu'une référence nationale, surtout si on veut la combattre. Et dans ces conditions-là, la culpabilité qui pèse pas simplement sur le nom national, mais qui pèse sur cette institution très singulière que l'on appelle l'école, et que l'on appelle l'école publique, qui est une particularité française, et sur les savoirs, puisque aujourd'hui, il est de bon ton, par exemple dans la presse, de mettre en cause ce que l'on appelle l'épistocratie, c'est-à-dire non pas l'aristocratie, non pas l'oligarchie, mais le fait que ceux qui savent pensent pouvoir parler avec, si j'ose dire, en attendant un traitement différent de ceux qui parlent en ne sachant pas. Tant qu'on cédera sur la différence qu'il y a entre parler en sachant de quoi l'on parle et parler en ne sachant pas de quoi on parle, tant qu'on continuera de céder sur cette différence-là, alors je prétends que tout le reste est du bavardage.
Oui, mais Jean-Claude Milner, est-ce qu'il faut absolument en connaître plus sur l'Europe et la nation, et particulièrement la nation, pour les combattre? Je pense, en vous écoutant, à ce qu'écrit Ortega y Gasset dans La révolte des masses, où il dit que le droit fondamental de l'homme, si fondamental qu'il est la définition même de sa substance, est le droit à la continuité. Et Simone Veil aussi parle de droit à la continuité historique. L'homme n'est jamais un premier homme, il ne peut commencer à vivre qu'à partir d'un certain passé accumulé. C'est aussi cela, si vous voulez, la nation. C'est un passé accumulé, et c'est donc transmettre, parce que là, vous récuserez pas ce terme, transmettre, c'est donner un héritage, ou comme dirait Hannah Arendt, intégrer à un monde plus vieux que vous. Et ce premier monde, c'est quand même précisément la nation.
Si vous voulez, ce que je pense, je n'arrive pas à faire entendre, c'est que je souhaite avoir un principe de tolérance ou un principe de neutralité. C'est-à-dire que je considère que ce que l'on appelons ces savoirs transmis, autorise aussi la conviction qu'il n'y a pas d'héritage. Je veux dire par là que entre il y a un héritage et il n'y a pas un héritage, On peut construire des discours articulés aussi puissants l'un que l'autre. Mais on ne peut pas construire aucun discours, que ce soit celui qui dit l'héritage ou celui qui nie l'héritage, sur une absence de savoir et de connaissance.
Ça pose, pour finir.
Oui, ça pose la question, disons, de la vérité. Est-ce que le savoir nous donne accès à quelque chose qui est plus vrai que son contraire et auquel il nous faut céder, qu'il nous faut admettre, hein. Je terminerai, si vous voulez, puisque nous touchons à la fin de cette émission, par cette remarque sur les campus américains en ce moment. Il y a quelques années, le bon ton, vous avez employé cette expression, Jean-Claude, le bon ton, c'était de dire « la vérité, ça n'existe pas ». La vérité, c'est un effet de langage, ou c'est le résultat d'une domination, etc. Il se trouve que l'histoire leur a joué un tour en faisant élire quelqu'un qui ment comme plusieurs arracheurs de dents. Bon. Eh bien maintenant, les campus américains commencent à dire « finalement la vérité c'est peut-être pas si mal que ça hein. ». Je dirais presque « la vérité, il n'y a que ça de vrai ».
Bon, c'est magnifique, très belle conclusion. Merci Rémi Brague, merci Jean-Claude Miner. Je rappelle le titre de votre livre, d'abord Jean-Claude Miner, « Considération sur l'Europe ». C'est une conversation avec Philippe Petit et c'est publié aux éditions du CERF. La déclaration de Paris est aussi publiée aux éditions du CERF. Et je rappelle Rémi Brague, Europe, la voie romaine, qu'on trouve aujourd'hui chez Gallimard dans la collection Folio. La semaine prochaine, nous continuerons à parler de l'Europe. Cette question est inépuisable. Mes invités seront Jean-Louis Bourlange et Régis Debray. Le titre de l'émission... Quel avenir pour l'Europe ? C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Émilie Valla. À la technique aujourd'hui, Julien Bourdet. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.